Soyez les bienvenus sur Brainige FM. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio sur Brainige, votre radio en Corrèze.
Chut, on écoute la télé avec les tourtes limousines. Spécialité élaborée en limousin sans huile de palme, sans conservateur. Pâté de pommes de terre, viande et autres tourtes confit de canard, cèpe ou gésier en vente partout dans vos grandes surfaces.
Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Et merci de nous rejoindre pour Chut, on écoute la télé, l'hebdo sur Brainige FM, des équipes de films, des comédiens, des chanteurs et bien d'autres pour cette heure que l'on démarre ensemble maintenant. Alors c'est parti pour le sommaire.
Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Eh bien, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro inédit de Chut, on écoute la télé. Je suis très heureux de vous retrouver avec cette émission aujourd'hui. Eh bien, consacrée en partie au film 10 jours sans maman. On va recevoir dans un instant Ludovic Bernard et Franck Dubosc qui seront nos invités exceptionnels. Le film sort mercredi dans les salles et je vous conseille vraiment d'aller voir. Vous allez beaucoup rire, je vous le dis. Et en même temps, ça fait réfléchir quand même. Alors, nos coups de cœur télé aussi cette semaine consacrée à Juliette Trezanini pour Demain nous appartient. Et puis un couple d'un si grand soleil, c'est Hubert Benhamdine et Aurore Delplace qui seront avec nous. Et puis ça, c'est également une exclusivité, je suis très très heureux de l'accueillir pour la première fois. C'est l'un des DJ mondiaux les plus doués de sa génération et les plus connus de la planète, c'est Bob Sinclair qui sera notre invité exceptionnel en fin d'émission. Alors surtout, restez bien avec nous, c'est un grand moment qui nous attend. Mais si vous voulez bien, on va démarrer tout de suite avec les audiences de la semaine dernière. Comme d'habitude, alors c'est parti.
Les tops et flops d'audience.
Allez, on passe tout de suite en revue donc les audiences de la semaine dernière. Et on commence par lundi, une déception pour TF1 avec H24 qui arrive seulement en deuxième position avec 2 745 000 téléspectateurs et 12,3% de part de marché. C'est Secret d'Histoire qui arrive en tête sur France 3 avec plus de 3 millions de téléspectateurs et 13,9% de part de marché. Marié au premier regard dans sa bonne moyenne avec 2 715 000 téléspectateurs et 13,6% de part de marché. Et puis c'est la chute pour Les Rivières Pourpres. On est sur des rediffusions de la saison 1 avec seulement 2 525 000 téléspectateurs et 11,2% du public. Mardi, eh bien, c'est le canal des secrets. France 3 est très très en forme la semaine dernière avec 4 983 000 téléspectateurs et 23,1% de part de marché. Magnum arrive très 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 loin derrière sur TF1 avec 3 229 000 téléspectateurs et 15,4% du public. Les pouvoirs extraordinaires du corps humain peinent à rassembler à peine 2 millions de téléspectateurs et 9,9% de part de marché. La chute continue pour M6 et Qui veut être mon associé avec seulement 1 500 66 000 et 8% de part de marché. Mercredi, nouvelle série sur TF1 Émergence qui arrive en tête avec 4 396 000 téléspectateurs, 18,7% de part de marché. Il a déjà tes yeux sur France 2 n'est pas en reste, un beau score avec 3 463 000 téléspectateurs et 14,7% du public. Du foot sur France 3 avec la Coupe de France Lyon-Marseille, 2 575 000. Jeudi, TF1 arrive en tête avec Monch. Ça, c'est une bonne nouvelle après un début de semaine difficile pour la première chaîne de France. Eh bien, la fin va s'annoncer, en tout cas, un petit peu mieux. Voilà ce qu'on pouvait dire des audiences tiens, de la semaine dernière. Et on va tout de suite commencer notre spécial 10 jours sans maman. C'est Ludovic Bernard et Franck Dubosc qui nous rejoignent.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et notre coup de cœur ciné, eh bien, cette semaine est consacré au film 10 jours sans maman qui sort mercredi dans les salles. Un film de Ludovic Bernard qui est justement notre invité. Bonjour Ludovic.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous, qui va être rejoint dans quelques instants par Franck Dubosc, qui va venir également nous rejoindre pour ce très beau film, une comédie familiale, où on rit beaucoup, on rit de bon cœur. Et ça tombe bien, parce qu'en plus, on est en plein cœur des vacances et ça fait du bien de voir des vrais films de comédie familiale comme ça, Ludovic.
Ça fait du bien et j'avais très envie de faire un film qui se passait autour de la famille, voilà. Et quelque chose de positif dans lequel il y a un renouveau où ce père de famille qui passe un petit peu à côté de sa famille, à côté de ses enfants surtout, se retrouve seul avec eux et puis au final il va comprendre que tout le mal qu'il a pu faire en n'ayant pas assez fait attention à ses enfants.
Je crois qu'il y a beaucoup de pères qui vont s'identifier, non ?
Je pense, moi-même, moi j'aime beaucoup travailler, des fois presque trop travailler, et du coup j'ai été beaucoup absent et j'ai toujours payé mon absence avec mes filles. Donc effectivement, je pense qu'on va tous se retrouver là-dedans.
Alors, un casting, un duo d'acteurs incroyables qu'on connaît bien évidemment, c'est Horatica et Franck Dubosc. Comment ils ont été choisis tous les deux? Qu'est-ce qui t'a donné ce déclic pour choisir ce couple-là, pour former ce couple à l'écran?
Dès l'écriture, j'ai toujours eu beaucoup de chance jusqu'à aujourd'hui, je touche du bois. C'est de quand j'écris, de penser à quelqu'un de précisément, là en l'occurrence c'était Franck et Or, et de les avoir par la suite. Donc je suis assez chanceux pour ça. J'avais envie de réunir ce couple parce que je trouve que c'est un joli couple de cinéma évidemment, mais que l'un et l'autre apportent quelque chose, la bienveillance de Or, sa beauté, sa féminité, et puis le côté comique de Franck, et puis aussi d'aller chercher quelque chose en plus qu'on ne voit pas toujours chez Franck, c'est la tendresse qu'il peut avoir. Et c'est un homme qui est plein de tendresse.
Il nous l'a démontré dans quelques films déjà, effectivement. Alors le casting des enfants, il est brillant. Trouver quatre enfants comme ça, qui s'insèrent tellement bien dans une famille, avec des âges, ça démarre à 2 ans et demi quand même, hein, faut dire aussi petit. Donc là c'est pareil, ça doit être un travail marrassant. Combien d'enfants ont été vus pour caster ces quatre-là?
Je ne saurais pas vous dire combien d'enfants ont été vus, beaucoup, mais en même temps pas énormément, parce que au fur et à mesure que je vois, j'ai déjà une idée précise dans ma tête de qui j'ai envie de voir et de ce que je vais chercher chez eux, donc j'arrive à éliminer ceux qui ne me conviennent pas. Et en même temps, ce qui était le plus difficile, c'était pas trouver les bons enfants, mais c'était trouver la bonne famille. Donc il fallait que les uns avec les autres puissent s'associer et que à aucun moment on ne puisse penser ces quatre enfants ne sont pas de la même famille, ne sont pas de cette famille, celle de Or et celle de Franck. Donc c'était vraiment le plus important, c'était de garder un œil là-dessus et de faire en sorte que ces quatre, que ces six personnes soient de la même famille.
On dit que le plus difficile souvent c'est de tourner avec des enfants ou des animaux ou la mer. Bon là, qu'est-ce qui est le plus compliqué alors? Parce que bon, t'as eu la montagne quand même, hein. Tu nous as émerveillé avec ce film L'Ascension que moi j'ai trouvé absolument incroyable. Donc c'est pas toujours les choses faciles que tu choisis, hein, en réalisation.
Mais j'aime bien changer à chaque fois de sujet, j'aime bien me confronter à d'autres problèmes auxquels je me suis pas encore confronté. Donc là, quatre enfants, pour moi c'était un Everest, si je peux ainsi dire, à un moment donné. Surtout au début en me disant, mais qu'est-ce que je fais ici? Comment vais-je arriver à diriger ces quatre enfants qui peuvent partir à n'importe quel moment, qui sont pleins de spontanéité, qui offrent énormément de choses? Et il a fallu aller chercher tous ces moments, aller voler, entre guillemets. Et en même temps, les plus âgés, même celui de 8 ans, ils savent jouer et ils sont pleins de ressorts. C'était ça qu'il fallait prendre sur le vif. Et puis, je dois dire vraiment que j'ai eu un camarade absolument incroyable qui est Franck, qui est d'une tendresse et d'un amour envers eux. Et je pense que c'est grâce à ça aussi que le film, pour moi, a du succès. En tout cas, pour mon succès dans le film, c'est que les liens familiaux existent réellement.
Ouais. Ça se voit à l'écran, ça transpire en tout cas à l'écran. Quelle a été pour toi la scène qui a été, on va dire, la plus difficile ou que tu redoutais le plus au niveau tournage? C'est souvent celle qui se passe le mieux d'ailleurs.
Ben oui, parce qu'on les prépare plus, c'est souvent, et puis c'est souvent quand on s'attend pas aux problèmes qu'ils viennent. On a toujours eu des petits soucis, il était marrant, le petit Evan, il y a des jours où il arrivait, où il disait, je veux pas faire le film, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de jouer, j'ai pas envie de m'amuser, ou je voulais pas mettre ce costume-là, je veux mettre un autre costume. Donc il y avait toujours ces petits moments-là, toujours qui étaient un petit peu difficiles.
Surtout quand on sait qu'on a le droit de les faire tourner qu'une heure par jour.
Exactement, donc on s'arrache les cheveux des fois, mais il faut rester patient, et c'est vraiment là le maître mot, savoir rester patient et savoir jouer avec eux et les emmener ailleurs pour récupérer ce qu'on a besoin de faire avec eux. Donc c'était assez assez prenant et assez agréable de ce côté-là avec les enfants. Après, il y avait plein de cascades, il y avait plein d'actions, et ça je savais faire parce que j'aime ça aussi. Et puis quelque part, le plus difficile, c'est le rythme du film, c'est bien garder le rythme du film.
Et ça, c'est aussi tout le talent d'un réalisateur, c'est garder ce rythme, que ça soit en écriture et à la réalisation soutenu. Briconautes, une sacrée pub, hein. Là franchement, et ils doivent être contents au siège de Briconautes, hein.
Je sais pas s'ils sont contents, ils ont pas encore vu le film, donc je pense qu'ils seront contents. En tout cas, on s'est bien amusé avec eux, ils ont été très bienveillants avec nous, et puis voilà, donc ça s'est formidablement bien passé. Briconautes, de grâce d'ailleurs.
Exactement, dans les Alpes-Maritimes. Juste avant que Franck arrive, on plante le décor, ça démarre par un feu d'artifice, et là, Franck nous explique un peu, en gros, ben, comment il a fait pour en arriver là, et c'est-à-dire qu'on repart en arrière, évidemment, et qu'on va comprendre un peu tout le cheminement de ce père en quête familiale, Je crois qu'on peut dire ça un peu.
En rédemption familiale. Effectivement, le film commence par la fin et on comprend là où il en arrive en recommençant tout de suite après. Mais c'est vraiment, je pense que c'est plus un père qui va prendre conscience qu'il est passé à côté de ses enfants, qu'il est passé à côté de sa famille, qu'il ne s'est concentré que sur son travail et qu'il n'a pas regardé assez sa famille grandir. Et heureusement, il va en prendre conscience. Et j'aime beaucoup dans mes films qui est cette idée de renouveau. Comme à la fin de ce film, 10 jours sans maman, il y a un renouveau, on sait qu'il y a une nouvelle vie qui va commencer et qui va être encore meilleure que celle qui vient de se passer. C'est un peu la même chose dans mes films précédents et j'aime beaucoup ça dans le, qu'on appelle les films un peu feel good, dans lesquels on se sent bien.
Nous, en tout cas, on s'est senti très bien pendant ces 1h45 de film. Je vous le conseille vraiment. Ça sort mercredi dans les salles. Ludovic, on écoute tout de suite la bande-annonce. 10 jours sans maman, c'est mercredi au cinéma.
Chérie, tu pourrais m'aider avec le contrat de la succursale, là, parce que je comprends rien.
Maman, j'ai mal à la tête, je veux pas aller à l'école.
Maman, y'a plus de chiens !
Maman, il est où l'iPad ?
Maman ! Il est où mon sac de cours ?
Moi, c'est les enfants, tout le temps, les enfants.
Oh, ça va, enfin, tu les as déposés à l'école, les enfants, t'as toute la journée pour t'occuper de toi, ça va.
T'es sérieux, là ?
Je donnerais n'importe quoi pour être à ta place.
Vraiment ? Tout est noté, tous les plats cuisinés pour ce soir-là sont déjà au frigo.
Oh putain !
Ensuite, tu retournes à l'école et tu déposes les enfants.
À droite ou à gauche ?
Non, c'est tout droit.
Oui, mais où ?
Et à droite, à droite !
Ensuite, tu retournes chercher Maxime qui t'attendra chez son copain Léon.
Oh, Maxime, ça va pas, c'est de l'insecticide, ça !
Bonjour, papa !
Non, on ne joue pas avec... Ah,
ensuite, tu files avec Joseph.
C'est Gribouille, la grenouille qui monte l'escalier.
Excusez-moi.
Oui ?
Il y a combien de marches ? Parce que moi, je dois aller travailler, là, maintenant.
Jojo, tu dis au revoir à papa ?
Non.
C'est votre enfant qui décide, hein ?
Ça, c'est lundi. Donc, t'as de la chance, parce que c'est un jour calme.
Comment gérer ? Première règle, fille.
Attends, papa, qu'est-ce que tu retiens avec ce portable ?
Rien.
Aucun résultat pour comment gérer ? Première règle, fille.
Allez, on va marquer une petite pause juste le temps que Franck nous rejoigne pour la suite de cette spéciale 10 jours sans maman. Le film sort mercredi au cinéma. Ludovic, on reste ensemble, on revient dans 3 minutes.
Avec plaisir.
À tout de suite. Et Franck Dubosc nous rejoint.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, de retour dans Chut, on écoute la télé, on continue notre spécial 10 jours sans maman et c'est Franck Dubosc qui nous rejoint maintenant. Bonjour Franck.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, on a planté un petit peu le décor avec Ludovic à l'instant. Moi déjà, première question que j'ai envie de te poser Franck, qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet ?
Ce qui m'a plu d'abord, c'est que c'était une comédie familiale. Moi, j'aime les comédies familiales. On n'en fait pas toujours, j'en ai fait beaucoup, mais c'est pas toujours le cas de tous les films que je fais. Donc, j'aime bien pouvoir réunir, surtout maintenant que je suis papa, j'aime bien pouvoir dire, tiens, on va faire une avant-première du film de papa et que mes garçons puissent voir un film que j'ai fait, voir au moins pourquoi papa s'en va de temps en temps pour travailler. Et puis ensuite, parce que je trouve, au-delà du côté drôle de la chose, du côté léger, je trouve que c'est, je m'y retrouve tellement là-dedans, dans cet homme qui ose dire à sa femme, toi, une fois que t'as porté les enfants à l'école à 9h, entre 9h et 16h, t'as plus rien à faire. Je me suis tellement retrouvé là-dedans, ça m'a tellement donné une petite claque que je me suis dit, ça ne peut qu'intéresser les gens, en tout cas pour se divertir, puis pour éventuellement que les couples qui y vont puissent donner des coups de coude en se disant, t'as vu, que les femmes puissent dire à leurs hommes, t'as vu, t'es comme ça. J'avais envie de ça, la petite leçon gentillette qu'on peut donner à nous les hommes.
Quand t'as lu le scénario, justement, tu as pu t'identifier, toi qui, à mon avis, aussi sans arrêt sur les routes, tout le temps, dans les trains, dans les avions, entre les spectacles, les tournages, les préparations de films. À un moment, tu t'es dit, c'est vrai, mes enfants, j'en ai peut-être pas assez profité ou j'en profite pas assez.
Oui, c'est-à-dire qu'on les regarde pas assez, on les regarde pas de la bonne manière. En fait, on croit qu'on les regarde, on croit qu'on est là, et puis finalement, on n'est plus là avec la tête, on est là avec le corps, mais plus avec l'esprit. Et puis on finit effectivement par se regarder soi, par regarder tout ce qu'il y a autour, par avoir l'impression d'être débordé, et puis oui, de les oublier un peu. Mais eux nous oublient pas et savent nous le rappeler. Mais quand ils nous le rappellent, les enfants, parfois il est un petit peu trop tard. Donc il faut réagir avant.
Il y a des anecdotes drôles avec les 4 enfants que tu as dû devoir gérer avec Ludovic sur le tournage en tant que papa de fiction.
Je vais vous dire, c'est la première fois que je me fais chier dessus par un enfant. Et le petit garçon de 2 ans et demi, qui a quand même que 2 ans et demi, une fois en tournée, et effectivement, j'ai senti que parmi tous les autres acteurs, ça pouvait être que lui qui avait fait dans sa couche. Donc voilà. Donc c'est la première fois quand même qu'un acteur ose me faire ça dans les bras. Quand il est dans mes bras, hein, après, il peut le faire à côté de moi. Sinon, c'est quoi des anecdotes?
Déjà, celle-là, elle est pas mal. Il paraît que t'as fait des cascades toi-même aussi, pareil, hein, dans ce film.
Aider, on est toujours aidé. Vous savez, il y a des gens dont c'est le métier, les cascadeurs, de faire ce qui est un petit peu plus difficile. Alors nous, on fait le maximum de ce qu'on peut faire, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a toujours des gens. Mais dans la boule, quand je suis filmé, c'est moi qui suis dedans. Après, d'autres m'ont remplacé plus pour me reposer que pour parce que je pouvais pas le faire. Et le réalisateur, lui, Ludovic, était dans la boule tout le temps, pratiquement. Bah moi, j'essaie de faire. Je veux pas. Je ferai pas une carrière en disant moi je peux ni Belmondo ni Tom Cruise à faire mes propres cascades. D'abord parce que comme je le dis, j'estime qu'il y a des gens qui sont dont c'est le métier. Il faisait pas la peine de leur retirer ça. Et puis j'aurais peut-être pas le courage de certaines, mais tant que je peux le faire, je le fais. Vous savez, être avec des enfants, c'est déjà une cascade. Hein. Jouer 4 ans.
Cascade perpétuelle.
Voilà, et celle-là, c'est une cascade perpétuelle, et celle-là, je suis pas doublé du tout.
Quel a été le meilleur moment de tournage pour le coup?
Ah, il y a plein de bons moments. C'est un bon souvenir parce que d'abord, il fait bon, il fait chaud. On tourne dans une jolie maison, on tourne dans le sud. Il y a une espèce de, il y a la fraîcheur qui se dégage du film, qui est sur le tournage aussi. Donc, le film est un bon moment en lui-même. J'ai aimé le moment où on est dans le sud, forcément. Quand on tourne les parties autour du lac, je trouve que c'était un bon moment de détente.
Le décor est très très beau. Bon, il est comment Ludovic en réalisateur?
C'est un ancien assistant, donc c'est assez rare parce qu'on croit que souvent que les premiers assistants vont devenir réalisateurs, ce qui est faux. Beaucoup de premiers assistants, c'est un vrai métier, premier assistant. Mais là, en l'occurrence, il a été premier assistant de grands réalisateurs. Donc, je donne l'exemple de Luc Besson. Quand on est assistant de Luc Besson, on fait pas qu'être premier assistant, on devient réalisateur de deuxième équipe. Il y a des cascades, il y a beaucoup de choses à gérer. Il a cette chance, au-delà d'aimer les acteurs et d'être un vrai réalisateur, comme tous les réalisateurs que j'ai rencontrés, d'aller plus vite parce qu'il sait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il y a dans la tête, il y a un réalisateur et un premier assistant. Alors pour les gens, un premier assistant, les gens ne savent pas bien ce que c'est. Un assistant réalisateur, c'est vraiment le plus que le bras droit du réalisateur dans un film. C'est vraiment celui qui va faire tout ce qui est le plus dur, en fait, tout ce qui est le plus chiant. Et il va gérer tout un plateau, tout plein de gens. Et il n'est pas l'assistant du réalisateur, il ne réalise pas le film, il fait plein d'autres choses. Et donc, je pense que quand on devient réalisateur, moi j'ai réalisé donc qu'un film, je vais en faire un deuxième. Il y a des fois, j'aurais bien aimé être assistant pour aller un tout petit peu plus vite dans ma tête. Il y a des questions que pose un assistant. Si vous l'avez été assistant, vous n'avez plus ces questions-là et vous les posez vous-même avant qu'on vous les pose. Enfin,
on gagne du temps.
C'est un temps d'avance. Gagner du temps, je ne parle même pas dans les horaires de travail, je parle dans la démarche du tournage. Donc, gagner du temps au cinéma, c'est faire un meilleur film, de toute façon, quoi qu'il arrive.
Ludovic, même question. Alors, il est comment, Franck, sur un tournage? Et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir justement travailler avec Franck sur ce rôle précisément?
Et comme je disais précédemment, moi j'ai depuis très longtemps eu envie de travailler avec Franck. J'ai eu la chance en écrivant ce script de penser à Franck et qu'il accepte de me rencontrer et qu'on puisse faire ce film ensemble. Mais ce qui caractérise Franck, et encore une fois il est à côté de moi, c'est sa générosité. C'est vraiment un homme extrêmement généreux avec tous les gens qui sont sur le plateau et d'autant plus avec les acteurs qui étaient autour de lui.
Il lance des blagues un peu de temps en temps.
Mais pas tant que ça. Non. C'est quelqu'un qui est très concentré toute la journée, qui est là quand il faut au bon moment. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va sortir le coussin péteur et qui va faire rire tout le monde avec ça. Non, bien au contraire, c'est quelqu'un qui est très concentré toute la journée et qui donne énormément. Et je te regarde dans les yeux en même temps parce que je te le dis vraiment merci. Sans toi, je pense que ce film n'aurait pas été aussi réussi de par le fait de jouer le rôle que tu as joué, mais d'avoir donné autant avec les enfants. Et sans ça, je sais que je n'aurais jamais eu le film qu'on a aujourd'hui. Voilà.
C'est beau.
C'est beau, mais je prends.
Donc j'espère que tu vas avoir une médaille de briconaute.
Mais c'est que mon jardinier dans le sud est un ancien employé de briconaute, du vrai briconaute où on a tourné.
À Grasse,
ouais.
Bon, les projets, on termine par les projets. Dernière date de 50-50, c'était il y a 2 jours, Franck. J'imagine qu'il y a un petit peu de nostalgie.
Non.
Même pas. La suite est déjà en route.
Non, c'est pas ça. C'est que quand on finit un spectacle, c'est jamais fini. Le spectacle, il existe. Donc, je me dis pas. C'est comme quand j'ai arrêté de fumer il y a beaucoup d'années de ça. Pour être bien dans ma tête, je me suis dit que c'était pas la dernière cigarette que j'ai écrasée. Je me suis dit, un jour, je refumerai peut-être. Ce qui est certainement faux. D'ailleurs, j'ai plus envie de fumer du tout. Un spectacle qui se termine, je me dis toujours, je vais pouvoir le rejouer. D'ailleurs, de temps en temps, je me dis, oui, parce qu'il existe, il est là, il n'y a plus qu'à le réapprendre. Donc, j'ai pas le, j'ai pas le, pas très nostalgique des choses. Je suis nostalgique de plein de choses, mais pas du travail. Les choses avancent, après on sait qu'on retrouve les gens et tout ça. Non, là, ce qui est important, c'est la sortie du film mercredi. Et puis après, moi, je prépare un film que moi j'ai réalisé. Et puis il y a toujours plein de projets. Et puis alors j'ai un gros projet qui va être difficile à mettre en place, c'est que je voudrais prendre du temps pour mes enfants.
Après le film que vous allez voir mercredi, on te comprend très bien. Ludovic, une série pour Netflix, il y a plein de projets aussi qui arrivent, tu travailles déjà sur les prochains films, bref, ça fourmille aussi.
Il faut toujours avoir deux coups d'avance comme aux échecs.
C'est bien dit, c'est une belle fin ça. Ne le ratez pas, 10 jours sans maman, c'est mercredi au cinéma, c'est le film qu'il faut aller voir cette semaine. Vous allez passer un bon moment, allez-y en famille. Voilà, c'est le mot d'ordre que l'on peut vous donner. Merci Franck, merci Ludovic d'avoir été avec nous.
Merci infiniment à vous.
Merci.
Chérie, tu pourrais m'aider avec le contrat de la succursale, là, parce que je comprends rien.
Maman, j'ai mal à la tête, je veux pas aller à l'école.
Maman, y a plus de chiens.
Maman, il est où l'iPad?
Maman, il est où mon sac de cours?
Moi, c'est les enfants, tout le temps, les enfants.
Oh, ça va, une fois que tu les as déposés à l'école, les enfants, t'as toute la journée pour t'occuper de toi, ça va.
T'es sérieux, là?
Je donnerais n'importe quoi pour être à ta place.
Vraiment? Tout est noté, tous les plats cuisinés pour ce soir-là sont déjà au frigo.
Oh putain!
Ensuite, tu retournes à l'école et tu déposes les enfants.
À droite ou à gauche?
Non, c'est tout droit.
Oui, mais où?
Et à droite, à droite!
Ensuite, tu retournes chercher Maxime qui t'attendra chez son copain Léon.
Oh, Maxime, ça va pas, c'est de l'insecticide, ça!
Bonjour, papa!
Non, on ne joue pas avec... Ah,
ensuite, tu files avec Joseph.
Indiscrétion, scoop.
Scoop.
News. Tout de suite, l'infomédia.
Allez, tout de suite, un petit tour vers les titres de l'infomédia que l'on va développer tout au long de la semaine dans la quotidienne. Et on peut vous annoncer, eh bien, par exemple, que du samedi 22 février au dimanche 1er mars, les chaînes du groupe M6 proposeront une semaine spéciale consacrée à l'agriculture à l'occasion du Salon de l'agriculture. Toutes les chaînes du groupe M6 seront concernées, M6, W9, mais également Sister. M6 lancera également la première saison de Dr. Harrow, une nouvelle série australienne. Ça sera le samedi 29 février prochain à 21h05. Depuis le 30 janvier jusqu'au 27 février, c'est une nouvelle fiction destinée à France 3 qui est en tournage à Marseille et à Fort-Calquier. C'est l'acteur Fred Testo qui donnera la réplique à Thierry Frémont dans ce nouveau téléfilm intitulé La mort est dans le pré. Et puis c'est la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte qui veut modifier le réseau France 3 avec beaucoup plus de programmes locaux et moins de national. C'est complètement le contraire de ce qui se fait aujourd'hui sur la chaîne. Tous ces titres, on va les développer dans la quotidienne de Chute, on écoute la télé tout au long de la semaine.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, un des couples d'un si grand soleil, alors couple, on pourrait même dire trouple, ils sont avec nous, mais on en a deux sur les trois qui sont là, c'est Aurore Delplace et Hubert Benhamdine qui est avec nous. Bonjour à tous les deux.
Ouais, bonjour, merci.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors c'est Christophe et Johanna, évidemment, dans un si grand soleil et ce triangle amoureux qui est formé avec Ludo. Alors déjà, est-ce que la greffe, elle a pris, est-ce que ça va mieux
Oui, apparemment.
Christophe.
Oui, apparemment ça va. J'ai quelques rejets de temps en temps, mais voilà. Non. Oui, ça va. Dieu merci, ça se passe bien.
Alors que le personnage de Christophe était un peu au second plan, puisqu'on suivait un peu justement l'aventure amoureuse de Ludo et Johanna, il est vrai qu'en fin d'année et début d'année, ben vraiment Christophe est revenu sur le premier plan finalement.
Oui, pour moi c'était un super moment où effectivement là tout d'un coup il y avait un petit focus aussi sur mon personnage qui juste là et jusque là était un peu le dindon de la farce et qui du coup et là forcément pour moi ça a été riche en événements avec cet infarctus, cette greffe et puis toutes ces révélations, tout ce que mon personnage a appris en très peu de temps et ça dégringolade parce que ça a été quand même assez intense, voilà. Mais pour moi en tant qu'acteur ça a été une période formidable de défis professionnels, quoi.
Aurore, l'arrivée dans un si grand soleil, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce qu'on avait eu l'occasion de te voir dans The Voice, il me semble?
Oui. Oh là là, oui. Écoutez, ça s'est très bien passé. Je l'ai vécu comme une rentrée des classes. Vous savez, quand la veille, on est hyper stressé, on se dit qu'on va rencontrer des nouveaux camarades et c'est vraiment comme ça. Et j'avais peur de la manière dont on allait être accueillis. Et il y a un mot qui revient tout le temps, c'est la bienveillance. Elle a vraiment été là dès le premier jour. Du coup, j'ai été à l'aise dès le premier jour. Et ça n'a fait que prendre de l'ampleur et c'est génial.
On découvre qu'elle est vraiment aux prises, puisque tu joues le rôle d'une avocate. Une avocate aux dents bien longues, on peut le dire comme ça. Et aux prises, effectivement, avec des démons en prison. Voilà, c'est joliment dit.
C'est très joli, c'est très joli, c'est très vrai.
Comment tu la définirais, toi? Parce que voilà, nous, on a l'image, effectivement, de Johanna. Mais toi, comment tu la définirais, Johanna?
Je la définirais comme étant une femme très sensible qui se cache derrière un beau masque, qui du coup a dû avoir de gros problèmes en étant jeune, donc s'est forgé cette carapace et se protège comme ça. Donc peut parfois paraître garce, méchante, un peu dure.
Et toi, comment tu définirais Christophe, justement, Hubert?
Mais justement, c'est un peu... le personnage est de plus en plus complexe et multifacette, mais bon, au départ, c'était quelqu'un de très sain, le bon gars, quoi, vraiment, qui a des valeurs, quelqu'un de fiable, de généreux. Et puis, justement, son système de valeurs s'effondre, je pense, avec la trahison de sa femme et de son ami, Ludo. Et à partir de là, on a une face obscure du personnage qui émerge. Et je me demande jusqu'où ça va aller, tout ça.
Quel est votre plus beau souvenir de tournage, pour le coup, ensemble ou séparément, hein?
Il y en a des tonnes. Alors, si c'est vraiment artistiquement, moi, je sais que je me suis lâchée pour la première fois. J'ai vécu un truc incroyable. La première fois, j'ai senti que j'ai pleuré vraiment et que j'ai oublié les caméras, sincèrement, et que c'était incroyable. Sinon, les moments incroyables, on en vit tous les jours, où on se marre. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on vit parfois des scènes un peu dures et qui prennent aux tripes et qu'on dit couper et on se marre.
Bah oui, bon, moi j'adore bosser avec Aurore, de toute façon, voilà, on se le dit souvent. C'est vrai qu'on est du coup de plus en plus dans un lâcher prise qui fait qu'on rentre facilement dans les scènes à fond, parce qu'on a confiance, et en même temps on en sort aussi facilement pour se marrer. Mais moi, les beaux souvenirs, c'est toutes ces scènes d'émotion très fortes, notamment à l'hôpital, notre scène de rupture. Ou enfin, elle m'annonce qu'on va se quitter, qui est un moment fort pour moi. Et sinon aussi, je pense aussi à Folco, scène d'explication aussi très un peu musclée avec lui, qui m'a aussi bien marqué.
Parce qu'il faut, pour ceux qui n'avaient pas suivi à la base, il faut savoir quand même que tu étais le meilleur ami de Ludo. Que Christophe est le meilleur ami, était.
Un de ses meilleurs amis, oui, c'est sûr. Et puis bon, là, forcément, il y a... c'est un peu compromis. Et voilà, mais c'est quelqu'un que j'adore aussi dans la vie. Ce lien humain qu'on a les uns avec les autres, ça nous permet d'aller plus loin dans notre boulot. Mais ça, c'est super.
Alors moi, je me souviens d'avoir reçu Folco au mois de juillet dans l'émission, justement. Et on lui disait, alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'entre Lucille et toi? Alors, il dit... Non, je ne pense pas, mais par contre, je peux vous dire que la rentrée,
elle va être...
ça va être musclé. Bon, évidemment, on a compris en voyant ton arrivée, Aurore.
Eh ben oui, moi je le savais dès le début, du coup, parce que je suis arrivée pour ça, pour aller le titiller.
Alors, sans faire de jeu de mots, Aurore, est-ce que tu as trouvé ta voix dans la comédie, ou est-ce que tu as envie aussi de revenir un peu à la chanson?
Ah là là, oui, je reviens à la chanson aussi. Mais je me suis découvert une véritable passion pour la comédie. Donc un vrai plaisir que je peux ressentir aussi en chantant.
Tu arrives à mener quelques projets artistiques, musicaux en même temps parce que on sait qu'une série quotidienne, ça prend énormément de temps. Hein.
Mais là, c'est la première fois depuis que je suis arrivée sur la série que j'ai un petit temps off, comme on dit. Et du coup, je me suis un peu depuis hier, donc je me suis recalée sur mon piano et je redémarre mes petites compos et je lâche pas, non.
Dans l'idéal, t'as envie de sortir un album?
Dans l'idéal, ouais, je sais pas si j'ai envie de sortir un album, mais j'ai envie de faire des concerts, ouais. J'ai envie d'avoir mon petit set et d'aller faire des salles. Un album, après, on verra, mais en tout cas, aller sur scène, oui.
Des projets pour toi, Hubert?
Alors, bon, je passe des castings, mais bon, pour l'instant, je peux parler de rien parce qu'il n'y a rien de décidé. Après, moi, à côté, je crée des spectacles, en fait. Hein. J'ai une compagnie de théâtre. Je fais aussi partie d'une troupe d'impro. De théâtre d'improvisation, et je commence à écrire un spectacle un seul en scène. C'est une sorte de one man show.
Hubert est quand même très très drôle, hein.
ouais voilà, c'est ça les projets. J'aime beaucoup la scène aussi, ouais.
Merci à tous les deux d'être passés nous voir. On va s'écouter un petit extrait de vous dans vos œuvres, et n'oubliez pas qu'un si grand soleil, c'est du lundi au vendredi à 20h40 sur France 2. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Je sais que c'est toi qui m'as balancé Nathalie Jiménez.
Quoi? Non, mais de quoi tu parles?
Une photo de moi avec le capitaine Léoni envoyée par un profil anonyme, ça te dit rien?
Mais non!
T'as engagé quelqu'un pour me suivre et me prendre en photo.
Non, mais ça va pas, t'es folle. Enfin, tu me connais, jamais je ferai un truc pareil.
Et juste avant que Nathalie Jiménez débarque à la maison pour m'enlever, tu m'as appelé pour me dire que t'avais peur pour moi, qu'il fallait que je quitte Montpellier, tu savais très bien que j'étais en danger.
Bon, écoute, je comprends que tu sois perturbée par toute cette histoire. Hein, mais là, tu délires complètement.
Il t'a envoyé cette photo et puis t'as eu des scrupules. T'as essayé de me prévenir à ta façon.
Johanna, Je te jure que j'y suis pour rien. Jamais je mettrai ta vie en danger. Il faut que tu me croies.
J'ai dit à la juge que je savais pas qui avait envoyé cette photo. En échange, tu vas accepter le divorce sans condition. Et ne cherche plus jamais à t'approcher de moi ou de mon bébé. Sinon, j'hésiterai pas une seconde à revenir sur ma déclaration.
Et dans nos coups de cœur télé, eh bien ce soir, par exemple, c'est le grand retour de Top Chef pour une nouvelle saison inédite où 5 chefs eh bien, vont venir en guest durant cette saison, dont notre chef de La Rochelle, Christopher Coutenceau, de Nouvelle-Aquitaine. Et on va tout de suite écouter eh bien, la bande-annonce. C'est parti.
Cette année, pour juger les candidats, nous avons invité les chefs les plus innovants au monde, reconnus par leur pairs. Ceux qui bousculent les codes en créant de nouvelles sensations. Par leur technique.
Vous avez osé présenter un plat brûlé dans un palace.
Parce que je trouve que là, on arrive à extraire ces goûts de légumes qui sont absolument incroyables.
Par leur démarche engagée.
Chef, vous cuisinez tout le poisson de la tête à la queue.
Un bon cuisinier ne jette rien.
Ou encore par le concept atypique de leur restaurant.
Dans le restaurant de Sébastien, l'entrée, le plat, le dessert sont sucrés.
Ce ne sont que des desserts. Des entrées desserts, des plats desserts et des desserts desserts.
Gagan, Anand, vous avez changé la manière de déguster.
Il faut lécher l'assiette, comme un chat ou comme un chien. Parce que quand on la lèche, on a une explosion, un feu d'artifice.
Et c'est déjà le carton assuré demain soir sur France 3 avec un tout nouvel épisode inédit du Capitaine Marlowe qui recevra en guest Mélanie Douté. Et ça s'appelle Passé Salute, il a été tourné en Corse. Et je peux vous dire que Corinne Maziero est toujours très 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 en forme, écoutez.
Attendez.
Touchez-moi pas, hein.
Allez, tenez pas.
Ouais, c'est ça, mettez pas votre gros doigt dans mon trou, là. Hein. Qu'est-ce que c'est, ça commence par un doigt, ça finit par un bras. Alors, y'a personne. Oh,
la Toubib est pas là, elle doit encore être partie en visite.
La voiture des parents est là, ils savent peut-être où aller. Sinon, le père, il va recoudre lui-même.
Hein? Ouais. Tout bip, ça. Eh, moi, je vous préviens, c'est pas le veto qui va me recoudre, je suis pas un bœuf, hein.
Ouais, mais le père, c'est l'ancien tout bim. Et pour certains, vous perdez pas au change.
Hubert, ils sont pas là. Descends là, foulez les.
Bah, qu'est-ce que t'as, toi, t'es tout blanc? Qu'est-ce que t'as vu? T'as la chasse? Pousse-toi de là que je m'y mette.
Et on va recevoir eh bien, celle que vous adorez, évidemment, dans Demain nous appartient. Elle joue le rôle de Sandrine Lazzari. Et c'est Juliette Trezanini qui est notre invitée. Bonjour, ma chère Juliette.
Salut, ça va?
Oui, ça va très très bien. Je suis très heureux de t'avoir avec nous. Tu nous enchantes tous les soirs à 19h20 sur TF1 dans Demain nous appartient. Alors, les sœurs Lazzari ont été vraiment au cœur de la tourmente tout au long de l'été dernier. À la rentrée aussi. T'as partagé énormément de scènes avec Véronique Jeannot, avec Solène Hébert. Et on peut dire que cette famille a été vraiment au cœur des intrigues.
Ah oui, bah c'était formidable de passer tout l'été avec deux partenaires de jeu d'exception qui sont un peu devenus ma famille. Il y en a une que j'appelle maman et l'autre ma sœur. Et on a fini par ne plus se quitter. Et puis j'espère que ça va revenir parce que là, la famille Lazzari est un peu en off ces derniers temps. On va dire que je joue plus avec Frédéric Diffenthal au lycée. Mais j'espère bien les revoir très très vite.
Mais on n'en doute pas. Comment t'as vécu justement ces 2-3 mois de tournage qui ont été hyper intensifs? Et quand tu as lu le scénario qui était préparé pour cette famille avec vraiment beaucoup de rebondissements, puisqu'on a appris évidemment que Victoire était ta fille et non pas ta sœur.
En fait, les producteurs nous l'ont annoncé toutes les deux, ils nous ont convoqués dans le bureau et ils ont fait monter la sauce, ils nous l'ont petit à petit vendu pour nous annoncer ça et on a hurlé sur la démo, non ! Et on était à la fois triste et en même temps agréablement surprise, mais on s'est dit ah non, parce qu'en fait comme on est sœurs dans la vie, on s'est paxé en sœurs, c'est-à-dire qu'on s'est choisi sœurs de cœur, on avait peur que ça, comment dire, ça enlève notre complicité ou que ça déséquilibre nos rapports privés. En fait, pas du tout. C'est toujours ma sœur. Et finalement, le côté mère-fille, on l'a un peu oublié parce que Victoire accepte pas que Sandrine soit vraiment sa mère. Elle lui dit je t'aimerai toute ma vie, mais pour moi, tu seras toujours un peu ma sœur. Et elle l'accepte comme ça. Donc finalement, elles sont un peu sœurs encore. Elles ont ce rapport-là.
Toujours autant de plaisir à jouer dans Demain nous appartient. Quand tu vois qu'aujourd'hui le public est fidèle, il est au rendez-vous, c'est plus de 3,5 millions sur TF1, plus les replays, vous dépassez 4 millions tous les jours, c'est assez incroyable.
Ah mais on a tellement de chance en fait. C'est moi, Demain nous appartient a changé ma vie. Quand j'ai eu ce casting-là il y a 3 ans maintenant presque, je ne savais déjà pas que c'était à 7. Je pensais que ça se tournait à Paris. Enfin bon, j'avais pas tous les éléments. Maintenant je me suis installée à 7. Je vis là-bas avec mon mari et mon petit garçon et on est chanceux. Tous les matins on se réveille, on tourne des scènes plus délirantes les unes que les autres, en passant par la comédie, le drame, avec des équipes techniques adorables. On se lasse pas parce que notre personnage, il évolue en permanence. Donc on joue jamais la même chose. Donc en fait, c'est un cadeau. C'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire à un comédien, en fait, d'avoir un rôle sur le long terme. Parce qu'on peut vraiment le développer. Voilà, on n'a pas la frustration de « Ah, c'est déjà fini !» Là, on peut vraiment creuser des choses et puis on évolue en même temps que notre personnage. Et on se fond dans notre personnage et il se fond un peu en nous. Et voilà, moi je remercie énormément les personnes qui m'ont choisi. Maintenant je sais qui m'a choisi précisément et elle va recevoir d'ailleurs un énorme bouquet de fleurs dans pas longtemps parce que j'ai mis du temps à le savoir. Non, j'ai beaucoup de chance.
Bon, et puis ça te laisse du temps pour d'autres projets puisqu'on sait que tu es très active sur les réseaux sociaux et puis aussi sur du court-métrage que tu fais aussi hein.
Oui, j'ai ma chaîne YouTube qui porte mon nom, Julia Trezzanini, dans laquelle j'essaye de publier à peu près 2 fois par mois, ce qui est énorme parce qu'un court-métrage, on le sait tous, c'est beaucoup de travail, de scénario, de prépa, de tournage, etc. Donc voilà, et puis j'atteins presque les 300 000 abonnés, donc je suis contente, ça commence à devenir quelque chose. C'est un peu mon petit bébé, puis il y a Parlons Peu mais Parlons qui reprend aussi une autre chaîne YouTube. Donc ça fait du travail en fait.
Tu as envie de passer à la réalisation d'un long métrage pour le cinéma? Est-ce que c'est des choses que tu envisages de partir d'un long à partir d'un court que tu aurais fait?
J'ai déjà réalisé Martin Sexe Faible, 4 saisons, qui est donc une web série produite par Studio 4. J'ai adoré ça, surtout donc la direction d'acteur. C'est vrai que j'avais des lacunes en tout ce qui était technique, mais j'étais très bien entourée. J'avais un très bon chef-op qui finalement m'a indiqué la route à suivre. Réaliser, mais évidemment que j'adorerais ça, mais je me sens pas encore légitime. Et puis je pense que j'ai encore des choses à raconter en tant que comédienne, donc j'y viendrai, mais plus tard, je pense.
Eh bien, on sera là en tout cas pour te relayer. Merci infiniment d'avoir passé ces quelques minutes avec nous, Juliette.
Et merci à toi, Alain. C'est toujours un plaisir parce que tu es toujours à la pointe de tout. Tu suis tout, tu es précis. C'est vraiment agréable de se faire interviewer par toi.
Et nous, c'est toujours agréable de t'avoir dans notre émission. Merci à toi, Juliette. À très vite.
Bisous.
Salut.
Derrière. Salut. Il se passe quoi, là, chez toi? T'accueilles un groupe d'ados prépubères ou...
Non, presque. C'est Jean-Jérémy qui a un nouveau jeu vidéo. Donc, ils sont à fond.
D'accord.
Pourquoi ça vous a dérangé?
Oui, beaucoup en fait. Même avec les bouchons d'oreilles, on les entendait encore.
Non, mais on se calme.
Ton cul, je suis 31 dans ton cul.
Je vais quand même leur rappeler qu'on n'est pas tout seul.
Voilà, ça serait sympa.
Comment?
Désolée.
Non, mais après, si c'est pas tous les jours, c'est juste pendant les vacances, de temps en temps, ça passe. Hein.
Non, bien sûr, là, c'est vraiment exceptionnel.
Et jeudi, sur Arte, c'est la mini-série primée 3 fois au dernier Festival des créations télévisuelles de Luchon, Amour fou, de Mathias Gokalp. Je vous propose tout de suite un extrait de cette mini-série en 3x52 minutes que vous pourrez voir donc jeudi à 20h50 sur Arte.
Un repas de famille qui dérape.
Putain, bordel de merde! Tu vois ce que tu me fais faire là?
C'est leur manière de fonctionner. Un soir ils font l'amour comme des brutes et le lendemain ils s'engueulent. C'est leur couple qui est comme ça.
Des relations qui dégénèrent.
Peut-être que c'est moi qui l'ai tué.
Mais finalement, qui manipule qui?
Putain, tu fais chier, tu vas nous griller.
Un thriller diabolique en 3 épisodes. Amour fou, déjà sur arte.tv et jeudi à 20h55 sur Arte.
Et on va recevoir dans un instant un des DJ mondiaux les plus connus de la planète. Oui, il est en exclusivité dans Chut, on écoute la télé. Et c'est une grande fierté d'accueillir dans quelques instants à mes côtés le DJ Bob Sinclair. Alors surtout, vous ne bougez pas, on revient dans quelques instants. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. L'invité d'honneur de la semaine.
Stop!
l'église partie. Ça a versé, franchement, je vais dire ma seconde jeunesse. Qu'est-ce qu'on a pu danser en boîte là-dessus?
Il y a pas si longtemps. Nous fais pas passer pour des vieux, là, pour des retraités déjà.
Bob Sinclair est notre invité. Je suis très heureux de te recevoir. Bob, je suis fan depuis des années, t'avoir à mon micro. Eh bien, écoute, c'est un honneur. Et il y a plein de choses, il y a tellement de choses à dire. Alors, on a 5 minutes ensemble. Et dans ces 5 minutes, moi, j'aimerais savoir déjà qu'est-ce qui t'a attiré et à quel moment tu as su que tu voulais faire de ton métier disque jockey.
Ah, mais ça, tu sais pas, à la base.
Parce ça arrive comme ça.
Mais non, c'est que la première fois que je suis rentré dans un club à 18 ans, c'était au Palace à Paris. C'est vrai que quand j'ai vu ce DJ donc manipuler les vinyles et ensuite avoir cette connexion d'énergie avec le dance floor, donc je suis tombé amoureux de ce contact qu'il pouvait avoir avec les gens et aussi de cette musique qui arrivait des États-Unis, de Londres, donc qui était la house et le hip-hop en même temps. Donc toute cette musique avec cette nouvelle dynamique sound system, j'ai trouvé ça incroyable. Donc j'ai commencé à acheter un disque, deux disques, ensuite à faire des cassettes pour aller à l'école. Tu vois, je m'étais acheté 2 platines, j'ai demandé à ma mère à Noël, c'est vrai que c'était assez cher à l'époque, mais j'ai dit c'est une passion. Et puis à un moment, j'ai voulu faire partager mon mix avec. J'ai voulu aller dans un club et partager ma musique avec les gens. Alors, je me suis aperçu que mixer dans sa chambre et mixer devant des gens, c'est pas du tout la même chose. Quand il faut les faire danser, il faut aussi les amener à soi et pas les forcer à écouter ce que toi tu écoutes toute la journée. Donc, c'est stratégique. Donc voilà, c'est la passion et l'étincelle, tu vois, ne m'a jamais quitté quoi depuis ce moment-là.
Quels sont les premiers endroits qui t'ont marqué où t'as mixé? On peut parler évidemment d'Ibiza, je suppose.
Ouais, écoute, je t'avouerai que j'ai monté un label en 1994, Yellow Productions, et à ce moment-là, je crée des projets plus trip-hop, acid jazz, et je me souviens qu'on allait beaucoup mixer en Allemagne. Il y avait un club qui s'appelle le Mojo Club à Hambourg, et là, je t'avouerai que c'était incroyable parce que ça passait du jazz, de la soul, de la funk, donc c'était assez dingue parce que ça, à Paris, ça n'existait pas, et il se trouve que les Allemands ont toujours été assez précurseurs en musique, c'est même eux qui ont inventé le disco, tu vois, donc ils étaient assez à l'avant-garde, tu vois, George Moroder, etc.
Même dans les pays nordiques, hein, je parle de la Suède parce que il y a des gens comme Bass Hunter me viennent à l'esprit et plein d'autres. Hein.
Non, bien sûr, la Suède, ils ont eu des groupes incroyables. Mais c'est juste pour te dire que c'était vraiment les débuts d'une scène en pleine effervescence et la French Touch a démarré de là. Et c'est vrai que la première fois que j'ai joué au Pacha Ibiza pour une soirée d'Eric Morio où j'avais le titre I Feel For You qui sortait, qui avait été signé chez lui d'ailleurs sur Subliminal, waouh, ça a été un moment magique. Quand tu joues à Ibiza en tant que DJ, tu peux te dire, t'as eu un César, honnêtement. Tu vois, tu peux dire au moins que t'as été sélectionné pour en tant que meilleur acteur. Après, il faut avoir ce César, donc peut-être pour avoir une résidence, ce que j'ai eu il y a 5 ans au Pacha. Cette année, j'ai changé, je suis au Art avec Electrico Romantico. Mais Ibiza, c'est vraiment une île spéciale où les gens viennent pour ça. Ils viennent pour danser, ils viennent pour s'amuser, totalement désinhibés. Voilà, il y a rien qui les arrête.
Comment tu vois l'avenir? Est-ce qu'il y a des titres qui arrivent? Est-ce que il va y avoir des nouveautés? Tu travailles sur un nouvel album?
Alors, il y a plus tellement d'albums. Je pense qu'on est revenu un peu au format des années 60 où tu sais, il y avait plein de petites starlettes qui sortaient des 45 tours et après ils faisaient des compilations. Donc aujourd'hui, on sort des singles et ça tout se passe sur les plateformes. Donc que ce soit sur Deezer, que ce soit sur Spotify et iTunes, les gens sélectionnent et font eux-mêmes leurs compilations. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on peut plus fabriquer d'albums. On peut, mais en tout cas, il n'y a plus de physique. Et ça me manque beaucoup, le physique. Je trouve que ça devient un petit peu jetable ou interchangeable assez facilement. Moi, j'étais amoureux des pochettes de disques, hein. Donc même avant que je commence. Donc l'avenir, si tu veux, j'essaie de faire 2 singles par an. Bon, c'est le 2019, j'en ai fait 1 avec Electrico Romantico, avec Robbie Williams. Mais il faut aussi sortir le bon single au bon moment. Je suis pas trop dans le supermarché de sortir des trucs comme ça, un peu n'importe comment.
Comment tu prépares tes sets? Est-ce que tu changes des choses en fonction des endroits où tu vas mixer?
J'ai une colonne vertébrale de titres que je passe, donc les miens, qui sont rythmés par mes propres titres, parce que c'est mes propres titres que les gens aussi viennent écouter, viennent découvrir. C'est vrai que c'est à chaque fois peak time, le bonheur, l'énergie maximum quand je joue mes chansons, parce que c'était de très gros hits. Mais entre ces titres-là, j'aime faire découvrir des choses aux gens. Donc s'ils sont pointus, je vais plus vers des choses très underground, plus instrumentales. S'ils sont un peu moins pointus, ce qui m'arrive de faire des choses plus commerciales dans les clubs plus accessibles, eh ben, j'essaie de toute façon de prendre des morceaux du moment. Je prends les a cappella et je les remixe. En tout cas, tout ce que je joue, c'est quelque chose qui a été recréé par moi ou refabriqué pour mes DJ sets.
Est-ce que t'as des scènes encore qui t'ont marqué particulièrement par une arrivée où tu t'attendais pas à autant de monde, par exemple? Je vais parler de l'EDM, par exemple, festival, ou encore un Tomorrowland, ou des choses comme ça qui, là, vous mixez devant 50 000 personnes.
Moi, j'ai fait la première édition de Tomorrowland en 2006. Et c'est vrai que ça n'a pas l'ampleur qu'il y a ça aujourd'hui. J'y ai joué l'année dernière aussi, mais c'est fou quand même. C'est fou ce que l'électro, cette scène a explosé. L'engouement qu'ont les jeunes, très jeunes même. Hein, tu vas à Coachella, par exemple, pour parler d'un des festivals les plus connus. Il y a des familles entières qui vont là. Alors tu peux voir Beyoncé, mais tu peux avoir aussi Fischer ou de la techno ou d'autres choses plus commerciales. Mais c'est fou. Je trouve ça génial. On a acquis un statut d'artiste, nous les DJ, au même titre que des chanteurs des pop stars.
Alors nous, on a un festival en Nouvelle-Aquitaine, ouais, électro, qui s'appelle Stéréoparc et qui a lieu à Rochefort tous les étés au mois de juillet. J'espère qu'on t'y verra l'affiche. Bien David sûr, Guetta, hein, y est venu, Steve Aoki est venu et il manque Bob Sinclair là-bas. Et
voilà. Bah, j'espère que vous allez m'appeler pour venir. J'adore les festivals d'été, surtout en France où encore une fois on vient en famille. Et moi, ma musique fait danser tout le monde.
Allez, on va passer Electrico Romantico. C'est un titre en collaboration avec Robbie Williams.
C'est une rencontre. Tu vois, une rencontre que j'ai faite dans un événement de charité où moi j'avais proposé mes services pour faire la fin de soirée, tu vois, pour faire danser les gens. Il y a souvent des artistes comme ça et Robbie Williams l'avait fait aussi l'année d'avant en tant que chanteur. Et puis ça fait venir des gens qui aussi aux États-Unis qui ont beaucoup d'argent et qui donc donnent pour des causes, que ce soit les enfants ou pour des maladies. J'étais très heureux de mixer, donc je mixe et au milieu, quand je joue World Hold On, il y a Robbie Williams qui arrive, je l'avais rencontré un tout petit peu avant, mais il m'a dit je veux absolument faire un titre dans cet esprit-là avec toi. Dès que t'as quelque chose, on y va. Donc je me suis dit, comme j'adorais un titre de lui qui s'appelait Rock DJ sur une base de Barry White, donc je dis ce mec-là il aime la funk et sa voix un peu crooner va être matchée complètement avec ce côté funky. Donc je vais composer avec mon pote Brian, là, un jeune belge musicien avec qui je travaille depuis longtemps maintenant, qui est compositeur. Moi je fais tout, arrangeur, production. Donc ensemble, on a créé ce titre-là très funky pour lui et je lui ai envoyé l'instrumental et il m'a appelé de Tahiti. Il était en vacances. Il me dit oh Bob, je voulais pas faire, j'avais pas le temps de le faire, mais ici je suis bien, j'ai le soleil. Regarde, écoute ça. Et il m'a envoyé une petite vidéo par message et avec une mélodie sans mots en yaourt, ce qui s'appelle en yaourt, tu vois, sans mots définitifs. Et j'ai trouvé ça génial, très disco, tu vois. Et j'ai dit génial, allez banco, on y va. Et on a fait une maquette chez lui à Los Angeles et ensuite on a enregistré à Londres le produit définitif. C'était voilà, c'est une expérience incroyable parce que c'est quelqu'un de vraiment de très élégant et vraiment on parle d'une élégance à l'anglaise et bon, un mec très classe.
Pour terminer, est-ce que tu as encore des rêves puisque les DJ internationaux aujourd'hui comme toi, tu es, vous avez quasiment pas de barrière avec les artistes avec lesquels vous aimeriez collaborer parce que c'est presque eux qui sont honorés de collaborer avec vous. Tu sais, alors est-ce qu'aujourd'hui tu as encore un rêve?
Tu sais, le rêve c'est d'être encore là, tu vois. Enfin, c'est-à-dire, c'est un rêve d'être là aujourd'hui, même de te parler, quoi. Je veux dire, quand j'ai commencé à faire le DJ en 94-95 dans des bars à Paris ou dans des clubs, je pensais même pas que je pouvais faire carrière. Tu vois, le DJ était considéré comme un mec qui se drogue, qui boit, tu vois, qui est là, qui pousse disque. Donc, le mec, on fait pas attention dans la soirée, tu vois. Le mec, qui fait danser les gens, mais on fait jamais attention à lui. Donc, le jour où tous ces DJ, je pense à partir de 2005, je pense que Love Generation et toute cette starification y a été pour quelque chose de très fort. Donc, nous a aidé à être identifiés et à pouvoir vraiment acquérir ce statut de d'artiste. Donc, je suis très heureux. Il n'y a pas encore de DJ à la retraite parce que même Carl Cox, qui doit avoir 56 ou 57, t'as Fatboy Slim, donc Norman Cook, qui doit avoir aussi dans les 54-55, qui est là. Donc, on est bien. Les gens veulent danser. Ils aiment les classiques et puis ils aiment les très bons DJ. Je pense que on est encore là pour un moment. Donc je suis très heureux d'être là et c'est un bonheur chaque jour.
Bon alors, et ton rêve de collaboration? Avec quel artiste tu aimerais là collaborer si tu avais un rêve et que t'as jamais collaboré encore avec?
Le rêve, ce serait
le rêve ultime.
Le rêve ultime, bon, ce serait été Prince. Mais Prince étant parti, je pense que son fidèle successeur serait Bruno Mars. Eh oui, Bruno Mars, la classe. Donc il a pas fait de featuring encore, en tout cas avec des artistes plus dance. Donc écoute Bruno, si tu nous entends, hein, si tu écoutes, tu es dans l'Aquitaine, si tu te balades.
Bon, bah merci en tout cas à toi d'avoir été avec nous. Quel bonheur d'avoir passé ces 10 minutes avec toi, Electrico Romantico.
Tu parles de l'interview, tu as dit 5 minutes.
Ouais, mais tu vois, tu as tellement aimé, tu es resté.
Et voilà, 10 minutes.
Allez, merci à toi Bob. Et puis on va écouter tout de suite Electrico Romantico.
Everybody's got to be automatic in your electrical romantico. Trying to find it way through the static. Gotta give myself some peace. Nobody wants that grief. Come on, you and me. Yeah, we're gonna find a way. Yeah.
online. Unplug yourself, let go, come be a friend of mine. I keep your tan alive. The water's warm and beautiful, just come outside. You and me, yeah, we're gonna find a way, yeah. And you need me, so unplug yourself, let go of the electrical romantical.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et on va donc se retrouver lundi prochain avec une large partie de notre émission consacrée à la sortie du film de Mathias Nécluse, Mine de rien. On recevra à cette occasion donc Mathias qui sera avec nous accompagné de Marianne Garcia, Arnaud Ducré et Mélanie Bernier. Toute l'équipe du film seront mes invités exceptionnels. Jean-Luc Reichmann également viendra dans Chute, on écoute la télé pour nous parler de la 7e saison de Léo Mattei qui débarquera le 27 février prochain sur TF1. Et puis c'est un des animateurs préférés du groupe M6, vous l'adorez je le sais, il s'appelle Jérôme Anthony. Il sort un album et se lance dans la musique, un très bel album intitulé Chez Lorette. Eh bien on va vous le faire découvrir et Jérôme Anthony sera notre invité. Donc vous l'avez compris, ça va être encore chargé lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé.
Sans oublier votre application sur iPhone et Android, Chute, on écoute la télé. Quant à moi, je vous retrouve demain à midi pour la quotidienne sur Brénige. Et pour la grande hebdo, eh bien, ça sera retour lundi prochain à 19h. Je vous souhaite à tous et à toutes, en tout cas, une très très belle soirée à l'écoute de nos programmes. À demain.
Chute, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé avec les tourtes Limousine. Spécialité élaborée en Limousin sans huile de palme, sans conservateur. Pâté de pommes de terre, viande et autres tourtes confits de canard, cèpes ou gésier en vente partout dans vos grandes surfaces.